Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 décembre 2021 et on a de nouveau vécu une journée assez spéciale hier. Spéciale parce que séparée en deux et pour une fois, quelque part, c'est les Américains qui ont pris la claque dans la figure puisqu'on a eu une relativement bonne journée en Europe où on a quand même bien tenté le rebond. Et puis finalement, les Américains se sont dégonflés l'après-midi. Pourquoi? Eh bien, on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Alors si on lit un petit peu les rapports de la journée d'hier en Europe, eh bien les Européens ont essayé finalement d'arrêter de se prendre la tête avec ce virus, avec ce variant Omicron et de passer à autre chose. Et puis en plus, hier il y avait un rebond généralisé des matières premières, donc les traders européens trouvaient ça génial parce que finalement tout repartait à la hausse, les matières premières remontaient. Donc on s'est dit si les matières premières remontent, c'est que ça consomme, donc l'économie va bien. Donc c'est top, on peut commencer à acheter les actions. Bon, ils ont oublié juste un truc, c'est que quand toutes les matières premières remontent à cette vitesse-là, ça va aussi avoir un impact sur l'inflation. Donc il va y avoir une accélération de l'inflation. Et s'il y a une accélération de l'inflation, eh bien potentiellement, on peut avoir une hausse des taux. Alors on est déjà au courant de la chose, puisque Monsieur Powell a parlé de ça avant-hier. Il a plus ou moins ramené ça encore sur la table hier aux États-Unis. Donc la hausse des taux, on est en train de la digérer complètement. On est en train de se dire qu'on va vraiment la voir. Et puis d'ailleurs, on a bien vu hier également en Europe le secteur bancaire qui cartonne. Mais pourquoi? Parce que les taux vont remonter et que c'est toujours une bonne nouvelle pour les banques. Aux États-Unis, la situation est beaucoup plus simple, j'ai envie de dire. Grosso modo, le marché a ouvert relativement bien hier après-midi, un peu dans le sillage de l'Europe, puisqu'on essayait un peu de se désomicroniser et puis de passer à autre chose, parce que je rappelle qu'on ne sait toujours pas exactement si ce virus est vraiment très méchant. On sait qu'il est très virulent au niveau de la contamination, mais on ne sait pas s'il est très méchant. Donc on essaie de se passer un petit peu au-delà de ça, et puis tout d'un coup, au milieu de la journée, eh bien, aux États-Unis, on a appris qu'il y avait une personne qui avait été contaminée par le variant Omicron. Une personne sur 350 millions d'habitants et le marché se fait déglinguer de 2%. Alors je ne sais pas ce que ça représente en termes de capitalisation boursière, mais en tout cas le mec qui a chopé le virus, le variant, eh bien il a clairement fait baisser le marché à lui tout seul d'une montagne de pognon.
Number one rule of Wall Street. Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is gonna go up, down, sideways, or in fucking circles.
Petit peu l'impression qu'on est en train de perdre la tête. Et les Américains parlent déjà de restrictions, de fermeture des frontières, enfin de restrictions un peu plus sévères, pas encore de fermeture des frontières, mais on parle déjà de tests PCR du style avant de monter dans l'avion, pendant que vous êtes dans l'avion, en sortant de l'avion, pour être sûr que ça va sauver le monde. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça n'a pas du tout marché la première fois, mais cette fois, par contre, apparemment, ça va marcher. Donc visiblement, je crois que c'est Einstein qui disait que finalement, la définition de la folie, c'était refaire la même chose que la première fois en espérant un résultat différent. Et puis, puisqu'on est un peu dans l'humour, on essaie de rester léger, eh bien, je crois que la chose qui résume assez bien ce qu'on vit en ce moment, c'est le dessin de Chapat qui s'affiche à ce moment, en ce moment exactement, où on voit très bien ce monsieur qui dit très clairement, nous décrétons la panique générale en attendant que la science détermine s'il faut avoir peur. En gros, c'est ça, on n'en sait rien, on ne sait pas où on va, on ne sait pas les conséquences de ce virus, on n'a même pas envisagé, ne serait-ce que quelques secondes, que finalement, si ce virus est extrêmement virulent, mais pas dangereux, ça pourrait presque être positif et nous amener vers une immunité, générale. Mais pour l'instant, on est en pleine panique parce qu'on se dit c'est de nouveau la fin du monde. C'est surtout très politique ce qui est en train de se monter, mais ça se répercute assez violemment sur les marchés, comme on le voit à l'heure actuelle. Donc, clôture au plus bas sur les indices américains, pas grand-chose d'autre à rajouter, quelques petites histoires indépendantes sur différents titres, mais autrement ça reste vraiment focus sur Omicron et cette personne, unique personne, qui pour l'instant est infectée aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, il faut noter encore que Monsieur Powell a parlé pour la troisième fois de la semaine. Alors, il n'a rien dit de nouveau par rapport à ses discours de lundi et de mardi. Faut dire qu'il avait quand même fait fort en disant lundi que le variant Omicron mettait en péril l'économie américaine. Ensuite, mardi, il avait supprimé le mot transitoire dans la définition de l'inflation selon la Fed. Donc, du coup, il pouvait pas nous faire grand chose de plus mercredi, mis à part nous monter les taux, ce qu'il n'a pas fait. Mais par contre, effectivement, dans le ton de son témoignage, dans les discussions qu'il apporte, dans les réponses qu'il donne aux questions qu'on lui pose, eh bien, on sent vraiment que Monsieur Powell est en train de basculer du côté dovish de la force pour aller dans le côté hawkish de la force. Et donc, on se dirige vraiment vers une, en tout cas, une accélération de ce tapering. Puis ensuite, on va parler de hausse des taux. Donc, je reviens encore sur le fait que on attend une hausse des taux pour juin 2022. Mais je pense sérieusement qu'avec ce qui est en train de se passer, on va commencer à se demander si on n'aura peut-être pas plutôt une hausse des taux avant le 1er avril, et ce sera probablement le thème du début du mois de janvier 2022. Parlons un petit peu des histoires individuelles, des titres individuels, parce que c'est là qu'il y a des choses rigolotes à discuter. Alors, un des sujets de la journée d'hier, c'était de savoir si finalement, aujourd'hui, Tesla était tout simplement devenu un titre défensif. Alors, il y a un analyste, un type de chez Wedbush, pardon, monsieur Ives chez Wedbush, qui estime qu'effectivement, aujourd'hui, Tesla est devenu un titre plus ou moins défensif. Donc là, c'est la quatrième dimension. Donc, Tesla est un titre défensif. Le truc, il a 350 de PI. Il est complètement surévalué. On parie sur le fait qu'ils vont vendre 30 millions de voitures en 2030. Mais c'est devenu un titre défensif. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh bien, simplement parce que finalement, ces derniers temps, quand on regarde, quand le S&P baisse, bon, c'est pas souvent que ça arrive, mais dans les périodes où on a 3-4 jours de baisse sur le S&P, eh bien, on se rend compte que Tesla baisse très vite au début, mais après recolle au troupeau, et finalement la performance à la baisse de Tesla n'est pas très loin de celle du S&P, ce qui veut dire que finalement vous prenez pas des gros risques, pas plus qu'avec un portefeuille diversifié. Tout ça au conditionnel avec des si un peu partout, parce qu'il n'y a vraiment aucune certitude. Moi, ça me fait un peu dresser les cheveux sur la tête quand on me dit Tesla est un titre défensif. Et puis, bah, toujours pour rester dans l'histoire de Tesla, il faut à noter quand même encore que, comme le Cybertruck n'est toujours pas là, eh bien, Monsieur Musk a eu une idée de génie, et hier, il a vendu un sifflet qui ressemble au Cybertruck. Le mec, il a vendu un sifflet en métal qui ressemble au Cybertruck. Alors, je sais pas combien il en a mis en vente, mais ça a la même forme. C'est un sifflet et ça valait $50 le sifflet et c'est parti comme des petits pains. Donc, moi, je sais pas, mais en dehors du fait que ce n'est qu'un sifflet, je me souviens pas la dernière fois dans ma vie où j'ai utilisé un sifflet. Je vois pas pourquoi j'ai traité un truc pareil, mais visiblement, du moment que c'est Elon Musk, entre guillemets, n'importe quelle merde qu'il puisse mettre en vente, il va les vendre. Donc, ça rejoint un petit peu le Cybertruck au passage. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire Tesla du jour. Ça faisait quand même au moins 4 jours qu'on n'avait plus parlé de Tesla. Il fallait bien que je le replace à un moment. Petit détour aussi par Square. Alors Square, c'est l'autre société de Jack Dorsey. Jack Dorsey qui est l'ancien CEO de Twitter qui vient de se tirer il y a 2 jours en arrière. Donc là, il se concentre 100% sur Square. Avant, il faisait 50-50. Donc là, il est 100% sur Square. Et la première nouvelle qu'il a annoncée hier à propos de Square, c'est qu'il change le nom de la société et il l'appellera Block, B-L-O-C-K. Alors, c'est assez rigolo parce que finalement, Square, c'est une boîte de paiement, un paiement digital, on va dire, c'est le concurrent du système bancaire de base du futur, si on veut essayer de résumer ça comme ça. Et là, aujourd'hui, on voit que Jack Dorsey veut clairement diriger Square dans le monde de la blockchain, dans le monde des crypto-monnaies et dans toutes ces nouvelles technologies. En tout cas, c'est clairement l'intention qu'il exprime en changeant le nom. Alors, le titre a perdu 6% hier, donc c'est surprenant parce que d'habitude, quand il y a ce genre de changement, le titre prend 10% pour je ne sais quelle raison. Mais en tout cas, ça me rappelle clairement une époque bénie des dieux, enfin pendant une certaine période, la bulle Internet de l'an 2000, parce que pendant une période de l'an 2000, avant que ça se pète la figure, tous ceux qui avaient une société de commerce qui vendait des trucs un peu classique, il y avait un magasin où ils vendaient, je sais pas, à l'époque il y avait une histoire avec de la bouffe pour animaux, ils avaient un magasin de pâté pour chiens, et puis bah, les gens allaient acheter la pâté pour leurs chiens, et puis quand il y a eu la vague internet, bah, tout le monde a commencé à parler de e-commerce, c'était les débuts du e-commerce, et aujourd'hui, ce type-là, à l'époque, il avait changé le nom de sa boîte pour, je sais pas, pâté pour chiens SA et c'est devenu pâté-pour-chien.com. Et quand Wall Street a entendu qu'on avait une société qui changeait de nom et qui s'appelait pâté-pour-chien.com, le titre a pris 30 ou 40 ou 50% juste pour fêter le fait que ça devenait une internet compagnie. On a déjà eu le cas, la même chose au niveau de la blockchain il y a quelques temps avec une boîte qui s'appelait Long Island Iced Tea qui faisait du thé froid justement, qui est devenue tout d'un coup du jour au lendemain une boîte de blockchain et elle a pris 400% en deux jours. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose. Pour l'instant, c'est pas le cas de Square, mais clairement, on voit les intentions de Jack Dorsey, c'est d'aller dans cette direction. Alors je pense que lui se fout pas mal que le titre prenne 20, 30 ou 40 ou 100%, puisque de toute façon, il a déjà largement fait son beurre, mais en tous les cas, sa stratégie aujourd'hui se dirige clairement en direction de la blockchain. On revient sur le pétrole. Vous vous souvenez, il y a 3-4 jours en arrière, il y a JP Morgan qui avait annoncé que selon eux, variant Omicron ou pas, le pétrole allait à $150. Eh bien, hier, on a eu Jefferies qui revient pour dire la même chose. Plus ou moins la même chose, on a un peu l'impression que le rapport c'est du copier-coller. Alors je sais pas si l'analyse de JP Morgan a quitté la boîte entre deux pour rejoindre Jefferies. En tout cas, le contenu est plus ou moins la même chose. Ils partent du principe que si demain, eh bien, le marché reprend une vie normale, ce qui est pas vraiment la direction qu'on prend là tout de suite, en tout cas ces prochains jours, si le marché se rouvre complètement, si le monde se rouvre complètement, eh bien, à ce moment-là, la consommation pétrolière va repartir de plus belle, et à ce moment-là, le baril, il va subir une forte demande, et donc derrière, il va aller à $150. D'ailleurs, au passage, l'OPEP a parlé hier, l'OPEP a parlé de pression vendeuse, entre guillemets, trop de production et trop de barils qui arriveraient sur le marché qui pourraient faire encore une pression vendeuse sur le baril. Mais par contre, ils ont laissé entendre qu'à terme, ils allaient aussi fermer le robinet, donc réduire la production pour faire, évidemment, remonter le baril, puisque il faut quand même payer la nouvelle Lamborghini qu'on a commandé la semaine dernière avec le pétrole. Et à $66, c'est pas terrible. Le pétrole a donc rebondi un tout petit peu hier. On se traîne toujours dans la même zone qu'avant, mais en tout cas, ça spécule pas mal. Et j'ai vraiment l'impression que si tout d'un coup, eh bien, on a une nouvelle du style qu'on se rend compte et qu'on admet que ce variant Omicron n'est que pas grand-chose finalement, et que c'est même plutôt une bonne nouvelle, eh bien, je vous dis, le pétrole, il va repartir à une vitesse, on va même pas le voir passer. La question du jour aujourd'hui, je vous la lis, j'ai une position dans Corsair Gaming et me prend actuellement une petite tôle de 27%. Cependant, je crois au titre long terme et j'aimerais vendre des covered calls pour utiliser la position pour diminuer le prix d'achat et ou générer un peu de revenus. Aussi bas soit-il avec 200 titres, donc 2 contrats maximum. Quelle est la stratégie? En gros, vendre des calls à maturité courte ou longue et à quel strike? Alors écoutez, il n'y a pas de règle fondamentale. La question, c'est vendre les calls le plus cher possible proportionnellement. C'est-à-dire que si vous vendez un call à 3 mois et que ça vous rapporte net annualisé un rendement de 5%, mais que si vous vendez un call à 6 mois et que vous avez un rendement net annualisé de 7%, eh bien vous savez dans quelle direction il faut aller. Il faut aller un petit peu sur du plus long terme. Maintenant, il faut toujours faire attention pour la détermination du strike. Quel strike vous allez choisir? Regardez toujours qu'il y ait bien du volume. Bon, après, c'est clair que si vous prenez des strikes, plus vous allez vous éloigner du hard the money, plus forcément, eh bien, la liquidité va se réduire. Mais si vous vendez, par exemple, 10 ou 15% au-dessus de hard the money, ce qu'il faut bien retenir dans l'histoire quand même, c'est que si tout d'un coup, il se passe un truc sur la société puis qu'elle rebondit massivement, et ce genre de titre est quand même très à risque de ce côté-là, vous aurez encaissé du style 3% de prime, et puis derrière, le titre, il va prendre 20% en deux jours, vous allez vous faire lever les titres, perdre vos calls. Alors, c'est clair que vous aurez encaissé une prime gratuite, mais après, vous aurez le regret, entre guillemets, de ne pas être dedans. C'est la seule chose sur laquelle il faut faire attention. Donc, il faut faire très attention. En général, quand on fait des ventes de calls pour améliorer le rendement d'une position, c'est souvent parce que le titre, il a un comportement relativement flat, ou alors une ascension linéaire, je veux dire, sans grande volatilité. On a l'impression qu'on peut déterminer un range en disant, bah, ok, je peux mettre mon strike en haut du range, et puis chaque fois qu'il va en haut, je vais jamais me faire exercer, mais je vais pouvoir revendre chaque fois des nouveaux calls plus tard. Mais là, en l'occurrence, quand vous avez une configuration comme Corsair, qui est plutôt, de nouveau un falling knife, c'est toujours difficile parce que dans un falling knife comme ça, si tout d'un coup ça rebondit, ça peut reprendre 10 ou 15%. Donc déterminer un strike à 10 ou 15%, ce sera vachement courageux parce que vous risquez de vous faire bam bam exercer derrière. Par contre, effectivement, si vous allez prendre des strikes 20 ou 30 ou 40% plus haut, bah là, de toute façon, la prime sera misérable, donc ça n'a pas grand intérêt non plus. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut jongler, et j'avoue que dans ce genre de configuration, c'est pas forcément le cas des calls qu'on utiliserait pour vendre des calls. Donc voilà, Moi, généralement, je ne vais jamais faire des ventes de call au-delà de 15% en dessus du at the money. Mais encore une fois, quand vous avez un titre qui vaut 21 $, faut pas oublier que 15%, c'est 3 $, plus ou moins. Donc, ça veut dire qu'on est très vite à 25 quand même, 24-25. Donc, faites attention par rapport à ça. Et surtout, ne soyez pas complètement frustré au cas où vous faites lever sur vos calls. Sachant que comme vous êtes déjà en perte, pour récupérer, il faudra un bon moment de vente de call pour déjà récupérer ses 27%, puis après laisser partir le titre dans l'hypothèse où il repartira en direction des 40 $, 40 $ qui sont le target élevé des attentes des analystes aujourd'hui sur Corsair. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vais prendre l'occasion pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux sur ces vidéos, d'être toujours aussi actifs au niveau des commentaires. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, moi, c'est un vrai plaisir d'être là tous les matins, même de plus en plus tôt. Vous avez vu que dorénavant, la vidéo sort un peu plus tôt encore. Je me suis organisé dans mon timing pour faire ça différemment. Merci d'être là, en tout cas. Merci d'être abonné. Merci de vous abonner à la chaîne Swissquote Suite si c'est pas encore fait. Et puis, pour le reste, eh bien, likez cette vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous. Et puis, nous, on se retrouve demain matin pour conclure la semaine et pour parler des non-farm payrolls qui sortiront vendredi après-midi. Très bonne journée à tous. Bye bye.